Bonjour à tous, bienvenue sur En Philosophie. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec Monsieur Philippe Fauré. Philosophe de formation, il occupe depuis 1994 un poste en sciences de l'éducation à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. En 2020, il est élu doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales, et depuis 2 ans, il occupe aussi le poste de référent laïcité au sein de l'UJM.
La fonction de référent laïcité a été installée par une loi qui date de 2021, qu'on résume en disant « loi sur le séparatisme ». Et cette loi installe un référent laïcité dans tous les établissements publics. Autrement dit, il y en a non seulement à l'université, mais il y en a un dans chaque lycée, il y en a un dans les institutions communales ou départementales. Il y a un référent laïcité à la préfecture de la Loire, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un référent laïcité dans tous les établissements publics? C'est évidemment parce que aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, un peu plus peut-être, les questions de laïcité sont des questions sensibles. C'était beaucoup moins le cas, je dirais, dans les années 60-70. Depuis la fin des années 80, notamment avec les discussions sur le port des signes religieux, la laïcité est redevenue un sujet public et cette importance de la laïcité n'a pas baissé. Alors elle prend parfois un tour tout à fait dramatique, comme vous le savez, avec des attentats. Il y a 2 enseignants du secondaire qui ont été assassinés dans les années qui viennent de s'écouler pour des questions liées à la liberté d'expression et à la laïcité. Donc ça, c'est ce qui fait l'aspect dramatique de la question. Mais indépendamment de cet aspect dramatique, il y a aussi tout un ensemble de questions qu'on découvre, qui se posent et pour lesquelles on estime qu'on a besoin d'une réflexion et de prise de position par rapport à la laïcité. La laïcité dans l'enseignement supérieur est assez proche de la laïcité en général. Il y a quelques spécificités, on va en parler, mais il y a aussi tout un fonds commun qui rassemble l'enseignement supérieur, l'université, la laïcité. Donc la laïcité, c'est un ensemble de lois, c'est un ensemble de textes juridiques qui ont un but précis, à savoir définir la place des religions dans notre société, dans les sociétés démocratiques en général, on va dire dans la société française. Donc la place des religions, ça veut dire la place des cultes et la place des croyances religieuses. Pour définir cette place, on a en particulier une loi qui est une loi ancienne, mais qui est toujours d'actualité. C'est la loi du 9 décembre 1905. Donc vous voyez qu'elle a presque 120 ans. Et en particulier, dans cette loi, 2 principes tout à fait fondamentaux qui sont formulés dans les 2 premiers articles de la loi et qui sont valables aussi, alors je le dis tout de suite, pour l'enseignement supérieur. Le premier principe, c'est le principe de la liberté de conscience. Et donc, la première idée de la laïcité, c'est ce que dit l'article premier de la loi, à savoir qu'un État laïque garantit la liberté de conscience. Alors, dans la loi, c'est marqué que la laïcité garantit le libre exercice des cultes, c'est-à-dire les pratiques des différentes religions. Mais aujourd'hui, on va dire que la liberté de conscience, c'est un peu plus large que ça. Il y a la liberté de religion, donc chacun est libre d'avoir la religion de son choix, mais il y a aussi la liberté de changer de religion, il y a aussi le droit à l'athéisme, c'est-à-dire que dans une société comme la nôtre, si vous pensez que Dieu n'existe pas, vous avez tout à fait le droit de le penser et de le dire, et puis il y a aussi le droit à l'indifférence, c'est-à-dire au fait de pas accorder une grande importance aux questions liées à la religion. Donc ça, c'est le premier principe, c'est le principe de la liberté de conscience. Et il y a un deuxième principe qui définit la laïcité et qui va valoir aussi donc dans l'enseignement supérieur, c'est le principe de la neutralité. Ce principe dit que l'État laïque est séparé des religions. L'État français ne finance aucune église, ne finance aucun culte, et c'est donc ce qu'on appelle la séparation entre les églises et l'État. La loi 1905, on la résume habituellement en disant que c'est la loi de séparation entre les églises et l'État. Ça suffit à caractériser la laïcité en France, à la distinguer par exemple d'un pays, je prends un exemple proche de nous, comme l'Allemagne. Vous voyez, en Allemagne, la République allemande reconnaît officiellement des églises. Elle reconnaît l'église catholique, elle reconnaît l'église luthérienne, l'église calviniste. Alors ça veut dire quoi reconnaître ? Ça veut dire que quand les citoyens allemands font leur déclaration d'impôt, il y a un passage, un endroit de la déclaration où ils disent eh « ben moi je souhaite qu'une partie de mon impôt soit affectée à telle église ». Et donc en Allemagne, les églises bénéficient de l'argent public. C'est pas le cas en France. Hein. Comme il y a séparation entre les églises et l'État, l'État laïque ne subventionne pas, ne subventionne aucune église. Donc voilà, ça c'est les trois idées majeures hein, pour définir la laïcité, qui est au fond une idée assez simple, hein, c'est l'idée de séparation entre les églises et l'État, l'idée de la liberté de conscience et l'idée de la neutralité de l'État. On va retrouver ces trois idées dans le cas de l'enseignement supérieur, hein, l'enseignement supérieur public, puisqu'il y a, il peut exister des écoles d'enseignement supérieur qui relèvent du secteur privé, hein, mais l'enseignement supérieur public et laïque, c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant des églises, y garantit la liberté de conscience des usagers, en particulier des étudiants, je pense qu'on va y revenir, et par contre, il est aussi neutre par rapport aux religions, et notamment les personnels, mais je pense que je vais le redire aussi, les enseignants sont soumis à un devoir de neutralité. Sur en ce qui concerne les croyances religieuses.
On va essayer de rebondir un petit peu sur cette notion de laïcité comme on l'entend dans l'université. Et on aimerait savoir pourquoi, dans le supérieur, on a vraiment cette liberté totale de croire ou de ne pas croire, en pouvant porter tout signe ostentatoire quand on est élève, par exemple, alors que dans certains lycées, voire tous les lycées publics ou collèges, c'est une pratique qui est interdit.
Effectivement, il y a une différence entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. À cet égard, dans l'enseignement secondaire, c'est pas dans certains établissements, c'est effectivement dans tous les établissements publics que le port de signes d'appartenance religieuse est interdit. Alors, je précise quand même un point, c'est que cette différence, elle vaut pour les élèves et les étudiants. Elle ne vaut pas pour les enseignants, donc ça c'est quand même important, hein, parce que à cet égard, la situation des personnels, non seulement les enseignants d'ailleurs, mais aussi les chercheurs, les personnels administratifs, c'est la même à l'université et c'est la même dans les lycées. Autrement dit, je reviens sur le point que je signalais tout à l'heure, tous les personnels sont soumis au principe de neutralité ou encore ils sont soumis à ce qu'on appelle un devoir de réserve. Devoir de réserve, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'un agent de l'État, un agent public, n'est pas censé exprimer ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions. Hein ? Par exemple, une professeure peut parfaitement être de confession musulmane, par exemple, à l'université, mais elle n'a pas le droit de venir enseigner en portant un voile. Alors ça va assez loin, ça, je me permets de vous le signaler. Par exemple, des étudiants qui font du tutorat à l'université, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, c'est une activité rémunérée, et donc ils touchent de l'argent public, donc eux aussi, ils sont soumis au principe de neutralité. Donc une étudiante qui peut porter un voile, par exemple, quand elle suit des cours, elle a le droit de le faire, mais dès qu'elle fait du tutorat, c'est peut-être, ça peut vous paraître un peu paradoxal, dans la mesure où elle est rémunérée par l'université, elle doit enlever son voile. La deuxième caractéristique du devoir de réserve, qui est, à mon avis, encore plus importante, c'est que un agent public, un fonctionnaire, ne doit pas favoriser ou défavoriser quelqu'un au nom de sa religion. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire l'égalité de traitement que tout agent de l'État doit à toutes les personnes avec qui il est en relation pendant son travail. Alors, je viens au deuxième point, c'est la différence, effectivement, qui concerne les usagers, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. Et là, il faut remonter à 2004. Hein. C'est-à-dire, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une loi qui a été votée et qui interdit aux élèves de l'enseignement secondaire de porter, bon, l'expression est un peu longue et un peu compliquée, des signes d'appartenance religieuse ostensibles. Hein. Ostensibles, ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas voir, qu'on est obligé de voir. Et donc les élèves dans les établissements scolaires sont soumis à cette interdiction-là. En dehors de l'établissement, il n'y a aucun problème, mais dans l'établissement, ils sont soumis. Alors que, effectivement, les étudiants ne le sont pas. Il faut se rappeler que à l'époque, en 2004, on était dans une situation où, dans la société française, il y avait vraiment des discussions très passionnées sur cette question du port du voile islamique. Hein. Et c'était des discussions qui dataient de la fin du XXe siècle, donc il y avait déjà une vingtaine d'années, et qui ont conduit au vote de cette loi qui fait que dans les collèges et les lycées publics, les étudiants sont soumis, alors non pas exactement à une interdiction de porter des signes religieux, mais à une obligation de discrétion en fait. Ils ont le droit de porter des signes discrets, mais ils n'ont pas le droit de porter des signes ostentatoires. Alors pourquoi est-ce que cette loi ne s'applique pas à l'université ? J'en viens à la question que vous me posez. Il y a certainement plusieurs raisons. La raison principale et sans doute la plus acceptable, c'est la différence entre le fait que dans l'enseignement secondaire, on a affaire à des élèves mineurs, tandis qu'à l'université, les élèves sont majeurs. Alors vous pourriez me dire, c'est pas vrai, par exemple, des élèves en BTS qui sont en lycée, ils peuvent avoir plus de 18 ans, et en première année d'enseignement supérieur, vous pouvez avoir des élèves mineurs. Mais enfin, globalement, c'est quand même ça. Hein. La différence entre l'enseignement secondaire et le supérieur correspond à cette différence entre être mineur et être majeur. Qu'est-ce que ça veut dire être mineur ? Être mineur, ça veut dire être dépendant juridiquement de sa famille. Et donc, on considère que certaines jeunes filles, si je reprends le cas du port du voile islamique, certaines jeunes filles peuvent, en raison des pressions de leur environnement, être obligées de porter le voile. Et donc, pour ces jeunes filles, à cet égard, l'interdiction de le porter dans les établissements scolaires peut être vécue comme une libération, en fait. Hein. Tandis que être majeur, en France, c'est être considéré comme être autonome et responsable. Et donc, on considère qu'une jeune femme qui porte un voile et qui est majeure le fait en connaissance de cause. Et dans ces conditions, on n'a pas de raison de lui interdire de porter ce voile quand elle est à l'université. Après, je dis ça, mais depuis 2004, on voit régulièrement des projets politiques revenir qui voudraient étendre l'interdiction des signes d'appartenance religieuse à l'enseignement supérieur. Pour l'instant, ces projets n'ont pas abouti.
On voit quand même que cette réponse soulève de nombreux défis quant à la laïcité au sein de l'université. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous citer un ou deux défis rencontrés véritablement au sein de l'UJM, par exemple ?
Il y en a quelques-uns auxquels je suis confronté puisque j'occupe une fonction dans l'établissement qui est celle de référent laïcité. Donc, on me consulte dans certaines occasions. Alors, par exemple, premier semestre, on a traité de cette question que je mentionnais, de savoir si une étudiante qui est en situation de tutorat a le droit de porter son voile ou si elle doit l'enlever. Et donc, on a conclu que elle devait l'enlever. Il y a des questions qui relèvent d'autres situations. Par exemple, pour les étudiants qui sont en alternance. Et donc, être en alternance, comme vous le savez, ça veut dire qu'il y a une partie des cours qui ont lieu à l'université, une partie de la formation qui a lieu dans une entreprise. Et donc là, on a eu un cas d'une étudiante qui était en alternance et sur son temps de stage en entreprise, elle a demandé le droit de s'absenter de l'entreprise pour des raisons religieuses, pour participer à une fête religieuse. Et alors, le chef d'entreprise lui a donné le droit, mais cette absence a été signalée à la scolarité de l'université. Et donc, la scolarité a dit, mais c'est une absence sans motif valable, et donc a voulu prendre une sanction à l'égard de l'étudiante. Et c'est à ce moment-là qu'on a été consulté et qu'on a dû réfléchir sur cette question. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, c'est des cas qui sont pas noirs et blancs, c'est-à-dire qu'il y a toujours tout un tas d'arguments pour, d'arguments contre. Et dans l'occurrence, on a vu que l'étudiante ne relevait pas d'abord du droit de l'université, mais elle relevait du droit de l'entreprise, du droit du travail. Et le droit du travail dit qu'un salarié peut effectivement, si son patron est d'accord, peut s'abstenter pour des motifs religieux. Et donc, on a levé la menace de suspension qui pesait sur cette étudiante.
Nous aimerions à présent aussi aborder la laïcité mariée avec cette diversité culturelle. Et on aimerait savoir comment il est possible de marier cet équilibre au sein de l'université.
Alors, le thème de diversité culturelle me fait réagir. Je crois qu'il y a une mise au point qui est nécessaire et qui est importante. Ce qui intéresse la laïcité, ce sont les religions. Et des fois, on pourrait avoir tendance à penser que la laïcité est un objet très très général. Mais ce n'est pas le cas en fait. Elle a un objet limité, c'est les pratiques et les croyances religieuses. Autrement dit, les pratiques culturelles sont en dehors de son domaine. Voyez, imaginez qu'à Télécom, il y a un groupe d'étudiants qui souhaitent organiser un atelier de danse traditionnelle bretonne. Vous voyez. Ça, on est typiquement dans le cas d'une pratique culturelle. Je ne serais pas consulté, moi, en tant que référent laïcité sur cette question. C'est complètement en dehors du domaine de la laïcité, parce que ça n'a pas à voir avec les religions. Là, on a le festival de l'université qui va commencer aujourd'hui et demain. Et il y a un mois et demi de ça, j'ai été consulté parce que on a eu un groupe de chant choral qui se portait candidat pour participer au festival, et c'était des chants de gospel, donc des chants religieux. Hein. Et j'ai été consulté pour savoir si ça posait un problème par rapport à la laïcité. Donc on a, comme toujours, hein, dans ces cas-là, je donne pas un avis tout seul, je consulte le service des affaires juridiques, on discute avec d'autres personnes, et il nous a semblé que tant qu'on restait dans le cadre d'une prestation artistique, hein, c'est-à-dire d'un concert de musique, il y avait aucun problème. La chorale pouvait tout à fait se produire dans le cadre du festival. Par contre, on a insisté auprès du responsable de la chorale pour que cet événement artistique ne se transforme pas en événement religieux. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas pour la chorale de demander au public de faire une prière avec eux, vous voyez, ou de distribuer des tracts et de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. Donc voilà, les pratiques culturelles sont en dehors de la laïcité. Alors, si je peux rajouter quelque chose, et après je pourrais même beaucoup développer ça, si vous voulez, je pense que du point de vue de l'université, le premier mot qui vient à l'esprit quand on réfléchit sur la diversité culturelle, c'est le terme de tolérance. Hein. L'université est un lieu de coexistence pacifique entre ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ont une certaine croyance et ceux qui en ont d'autres, etc. Et ça, c'est quand même évidemment extrêmement important. Et j'ajouterai un point, c'est que cette tolérance, elle est justifiée par une raison fondamentale qui est la raison d'être de l'université, qui est d'être un lieu de formation. Autrement dit, l'université est un lieu où ce qui est prioritaire, c'est la production et la transmission du savoir. Et donc, les religions sont invitées à rester de côté, voyez, à occuper une place secondaire. Donc, on est censé tous se tolérer mutuellement dans la mesure où notre raison d'être à tous, c'est la production et la transmission des savoirs scientifiques.
C'était le Focus Laïcité. Merci d'avoir écouté l'émission Dans Philosophie. À bientôt.